de l'info sur VOA Afrique.
À l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Depuis la commission Vérité et Réconciliation de 1995 en Afrique du Sud et les procès Gacaca au Rwanda, des processus plus ou moins identiques ont été créés en Afrique où plusieurs pays et régions sont encore engouffrés dans des conflits à caractère ethnique, politique ou socio-économique. Les groupes rebelles, milices et autres mouvements armés pullulent dans plusieurs zones du continent sans que les États ne parviennent à reprendre le contrôle de grandes parties de leur territoire où les populations sont ainsi victimes d'exactions pendant des années, voire des décennies. Alors comment permettre au processus de vérité et réconciliation d'aboutir véritablement à la paix durable? Comment expliquer les échecs ou non ou le non-aboutissement à de ces mesures? Et que faire et ne pas faire pour réconcilier les populations et rétablir la sécurité? Avec nous sur WhatsApp, nous avons Dr Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la Réconciliation de la République centrafricaine, membre de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Bonsoir madame, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie.
Alors madame Montaigne a élaboré, vous avez élaboré en 2014 une stratégie de réconciliation à travers des consultations populaires à la base et le Forum national de Bangui, une conférence de réconciliation d'une semaine en 2015. Donc vous avez une grande expérience de la réconciliation en République centrafricaine. Pourriez-vous bien entendu dans un premier temps nous parler de ces consultations populaires à la base? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que cela veut dire qu'on va voir toutes les populations dans toutes les régions qui ont été victimes, notamment des exactions?
Alors, merci Nathalie de votre invitation et merci aussi de poser la question sur la réconciliation qui est un enjeu important pour beaucoup de pays en Afrique et aussi dans le monde. En République centrafricaine, nous avons élaboré une stratégie en 2014 en pleine transition pour répondre aux besoins du moment, à savoir les confrontations non seulement armées entre différents groupes armés, mais aussi les confrontations entre les communautés à la base qui avaient cru comprendre qu'il s'agissait d'une guerre de religion qui était déclenchée dans le pays. Et dans cette consultation, avait vocation à aller toucher du doigt qu'est-ce qui inquiétait et qu'est-ce qui faisait croire qu'il y avait des motifs de craindre une généralisation des crises et des confrontations plus graves. Et donc, ces consultations étaient vraiment tombées à point nommé et ont permis, en tout cas, à la République centrafricaine d'apaiser les choses, les conflits, par la médiation qu'elles ont pu mettre en place sur toute l'étendue du territoire.
Alors oui, comme on le précise effectivement, Madame Montaigne, effectivement, on parle de conflits religieux, surtout dans le cas de votre pays, conflits communautaires, conflits religieux, entre autres. Écoutons la réflexion de Leila Ndiaye. Elle est experte en relations internationales.
Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Il faut reconnaître que la Commission a été et reste un exemple de réussite jamais égalée, car deux principes ont guidé son fonctionnement. La place importante qui a été accordée aux victimes, mais aussi le caractère individuel et conditionnel de l'amnistie. Cette Commission s'est appuyée à la fois sur le langage des psychologues et sur une orientation chrétienne. Comme vous le savez, elle a été dirigée par l'archevêque anglican Desmond Tutu, qui, lui, a relié la conception chrétienne du pardon et de la refondation de la communauté à la notion d'Ubuntu, ce mot qui exprime le fait de se montrer humain. C'est une autre façon de dire « mon humanité est liée inextricablement à la vôtre », avec un principe « un être humain n'existe qu'en fonction des autres êtres humains ». Cela dit, l'esprit de bonne foi de cette dite commission, la volonté sincère de tourner la page, la sincérité du repentir, l'absence d'esprit de revanche des nouveaux dirigeants ANC et alliés, le souci de rassembler et de ne pas effrayer la minorité blanche sont autant d'ingrédients qui ont concouru au succès de cette commission et qui fait cruellement défaut aux autres commissions en Afrique qui ont voulu s'en inspirer. Plusieurs commissions Vérité et Réconciliation ont vu le jour en Afrique. Elles ont hélas pour point commun d'avoir été pilotées par les nouveaux pouvoirs qui ont nommé des personnes sans l'autorité morale à la Desmond Tutu et la crédibilité suffisante et l'impartialité requise en ces circonstances. Elles ont souvent été des tribunes pour régler des comptes et se sont transformées en tribunaux à charge. Il a manqué à ces commissions la bonne foi, la volonté de tourner la page, le manque de leadership, et toutes n'ont pas tiré les enseignements des expériences passées. Il a manqué aussi de tisser des liens de confiance avec les communautés et les pouvoirs publics, et elles n'ont pas aidé les populations en proie au conflit à devenir des acteurs du changement.
C'était Leila Ndiaye, elle est experte en relations internationales. Docteur Antoinette Montaigne, vous avez entendu ce qu'a dit Madame Ndiaye. Qu'est-ce que vous auriez finalement un petit peu quand même pour vous défendre par rapport à votre travail sur cette question? Quels sont les points qui vous ont marqué en particulier? Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, pour démontrer le bien fondu de votre travail?
Mais je pense que Madame Ndiaye, en tant qu'experte internationale des questions de construction de la paix, notamment plus spécifiquement des questions de commission de vérité, a bien fait le tour en explicitant le cas de l'Afrique du Sud par la dimension morale de Desmond Tutu et aussi par un mélange des principes institutionnels, juridiques ou sociétaux aux principes religieux. Qui ont permis aussi aux communautés sud-africaines de pouvoir se retrouver et de faire la part des choses. Effectivement, la question qu'on doit se poser dans la mise en place des commissions de vérité, c'est non seulement la dimension morale, la dimension de la personnalité qui conduit les choses ou des équipes qui sont appelées à conduire, mais il y a aussi la question du timing. Le timing est très important. En Afrique du Sud, il y avait un processus politique qui était enclenché où l'apartheid, en tant que système qui a présidé aux destinées de ce pays pendant des décennies, était remis en question par tout le monde. On était d'accord pour passer à la phase de la vérité et purger le passif de tout ce qui s'est passé. Dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, vous avez cité tout à l'heure dans votre présentation qu'il y a des conflits multiformes aujourd'hui sur le continent et que ces conflits ne sont pas achevés. Et donc, les commissions vérité viennent là pour essayer de casser la dynamique des conflits par une dynamique positive de construction de la paix. Et c'est là tout le défi et les enjeux qui se présentent dans différentes configurations aujourd'hui en Afrique.
Absolument, docteur. Effectivement, vous faites bien de rappeler que beaucoup de commissions qui sont en vigueur actuellement traitent des conflits qui sont encore installés, notamment en Afrique. Écoutons à présent la militante des droits humains Stéphanie Padenou, elle est au Canada.
Il est dit que pour arriver au pardon, il faut une reconnaissance des faits. Et d'un autre côté, on sait qu'une commission vérité et réconciliation est en fait un processus d'enquête et de quête de compréhension sur des faits et crimes graves subis par des populations civiles lors de conflits de diverses natures. Ça devrait en effet donc être une étape très importante lors d'une transition. Aussi, il faut savoir que la justice transitionnelle est composée de 4 piliers principaux. Le premier pilier est la recherche de la vérité. Le second, les poursuites judiciaires. Le troisième pilier, les réparations. Et le quatrième, les réformes institutionnelles. C'est sûr que pour arriver à la vérité, il faut qu'on y ait accès. Sauf que lorsqu'on regarde les victimes aussi bien que les témoins, est-ce que ces deux groupes-là se sentent suffisamment en sécurité dans la majorité des cas pour justement s'exprimer librement? Alors, si je prends le deuxième palier, qui est celui des poursuites judiciaires, ben là encore, on a vu justement certains cas où il y a une très faible collaboration entre la commission Vérité-Réconciliation et le système judiciaire du pays. Si on considère le troisième palier, qui est celui des réparations, on l'a bien vu que c'est quasi inexistant ou alors dérisoire au vu des maux subis dans la majorité des cas et des circonstances. Et quant au dernier palier, celui des réformes institutionnelles, où on n'y touche pas, ou alors c'est très rare, ou alors c'est vraiment pour servir en fait le pouvoir en place ou la personne en place dans le cadre de, d'une dictature, ce n'est pas le système de commission vérité réconciliation en lui-même, selon moi, qui pose problème, mais son application. Je pense que pour justement que ce système puisse permettre d'arriver plus souvent que d'ordinaire à une paix durable dans nos pays africains, je pense qu'il faudrait revoir certaines façons de faire, sécuriser, mettre plus de moyens, être plus attentif, mieux soutenir, mieux encadrer. Il ne faut pas que une commission vérité-réconciliation soit vue simplement comme un sparadrap qu'on mettrait sur une plaie non désinfectée.
C'était Stéphanie Padenou, militante des droits humains. Docteur Antoinette Montaigne, vous avez entendu, elle a parlé notamment de la relation entre ces commissions et les tribunaux spéciaux notamment. Donc vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation donc en Centrafrique. Et on a également les tribunaux spéciaux, enfin la Cour pénale spéciale. Alors pourriez-vous nous dire justement comment ça se passe, la relation entre ces deux structures?
Alors, ce qui a été prévu en République centrafricaine, c'est qu'il y a deux mécanismes de justice transitionnelle. La Cour pénale spéciale qui est juridictionnelle, qui a un pouvoir juridictionnel, qui va mener des investigations dans un cadre juridictionnel pour pouvoir rentrer en voie de condamnation et condamner les personnes reconnues coupables. Tandis que la Commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation a un rôle non juridictionnel. Le rôle de la Commission Vérité en Centrafrique, c'est notamment de décrire la mémoire historique. La mémoire historique écrite par le peuple centrafricain, pas par les institutions. C'est là la différence de taille, parce qu'il est question que, avec les vécus des crises successives depuis plusieurs décennies, à commencer par la disparition tragique de Barthélemy Bouganda, le père fondateur, en 1959, jusqu'en 2019, soit 60 ans d'histoire, il est question de passer, de refaire surface la mémoire des populations, des communautés et même des institutions sur comment ces crises ont été vécues qui expliquent aujourd'hui la situation du pays. Donc, il n'y a pas d'obligation de témoigner, il y a une volonté d'ouvrir ce cadre, cet espace à toutes les institutions, aux universités, aux localités, aux communautés, aux différents corps sociaux de pouvoir témoigner et aux individus naturellement, aux victimes et témoins. Aujourd'hui, rapidement, ce qu'on peut retenir dans la présentation de cette grande militante, c'est la question des possibilités effectives de protection des témoins et victimes pour parvenir à cela, parce que ce cadre est donné, mais les victimes hésitent parce que y a encore des conflits en cours et qui ne sont pas totalement achevés.
Alors, docteur Antoinette Montaigne, restez avec nous. Écoutons à présent la réflexion d'une sociologue sénégalaise, c'est Célibat.
Il est important de noter à ce niveau que la réconciliation ne saurait se substituer à la justice. Aujourd'hui, en Afrique, si on veut éviter la résurgence des guerres, les pays africains et leurs partenaires étrangers doivent offrir un minimum de conditions pour la subsistance au quotidien et mener une politique de sécurité axée sur la population, le développement et les questions sociales. Je pense que c'est des questions fondamentales. La prise en compte des besoins, le respect des droits humains et que aussi garder à l'esprit que seule l'Afrique peut trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui, les questions de sécurité sont déléguées à des institutions étrangères, alors que la sécurité de l'Afrique doit être entre les mains des Africains et pour les Africains. Donc, on ne peut pas déléguer sa sécurité à quelqu'un d'autre. Et pour que l'Afrique puisse s'attaquer aux nombreux problèmes qui engendrent des conflits, tels que tout ce qui est corruption généralisée, les inégalités économiques et l'exclusion de certains groupes ethniques et sociaux, il est important aujourd'hui d'avoir des États démocratiques bien gouvernés. Et c'est extrêmement important parce que les chances de paix et de développement de l'Afrique dépendront de l'attitude des États africains.
C'était la réflexion de la sociologue sénégalaise Séliba. Écoutons une autre sociologue à présent, c'est Odile Poin, pardon. Elle est en Côte d'Ivoire.
Je voudrais saluer Nathalie ainsi que les auditeurs et auditrices de la Voix de l'Amérique pour les sujets toujours pertinents qui nous est donné d'analyser parfois. Et je voudrais surtout dire que c'est vrai, les conflits, on les voit partout et c'est comme une forme d'impuissance. Et il ne faut pas venir à une table pour avoir raison, mais pour résoudre le problème que vous avez posé. Vous avez vu que parfois, quand on résout un problème, automatiquement, on met un autre problème. Parce que parfois, ceux qui sont à la table là sont pas les véritables personnes qui peuvent décider. Parfois, c'est des faire-valoir, parfois, c'est des bras séculiers. Alors que dans toute négociation, dans toute part de vérité, il faut qu'on puisse connaître sa part dans l'échec ou bien dans la réussite, de telle sorte que chacun se dise, oui, je dois lâcher du lest, je dois faire ceci pour qu'on arrive à un compromis. On doit réconcilier les populations, on doit faire intervenir des chefs pour que quand les chefs parlent, mais quand on est toujours en train de penser que, je parle des conflits interethniques, hein, que quand celui-là dit ça, c'est lui qui veut séparer, alors que peut-être lui, ce chef-là, il entend des bruits, il sent que les gens sont pas contents, et il sait que d'autres peuvent venir pour utiliser leurs revendications. Donc, réconcilier la population et montrer que il y a d'abord le pays avant qu'on ne parle d'ethnie. Mais tout ça, ça se construit. C'est une construction sociale.
C'était Odile Poin et les sociologues en Côte d'Ivoire. Docteur Antoinette Montaigne, on a parlé tout à l'heure des fameux Zinga-Tcha-Tcha. Et est-ce qu'il y a en Centrafrique des mesures de ce type-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dans les villages? Est-ce qu'on invite les populations à s'exprimer et à voir un petit peu comment elles peuvent avancer ensemble? Parce que ce n'est jamais évident pour personne de vivre en tant que voisin d'une personne qui aurait commis des exactions de son propre bourreau, par exemple.
Merci Nathalie. Mais je voudrais revenir très rapidement sur les deux analyses qui ont été faites par les deux grandes expertes sur la question de la justice et sur la question des véritables acteurs des crises et conflits en Afrique. Effectivement, on ne peut pas parler de paix sans la justice. Hein. Parce que la justice est un curseur très, très, très important qui permet de prévenir d'autres conflits futurs. Et aussi, la justice permet de réhumaniser les victimes qui ont été souvent déshumanisées par des atrocités et par des violations graves des droits humains. Et donc, cette question de justice, elle est fondamentale dans les mécanismes de justice transitionnelle, en particulier les commissions vérité. Et de la même manière, pour pouvoir parvenir à une véritable vérité, si je peux me permettre, c'est d'avoir les vrais auteurs, les vrais décideurs des conflits. Il y a les exécutants et il y a ceux qui décident, qui sont souvent pas en première ligne. Et c'est là toute la difficulté de la construction de la paix en Afrique. Ça requiert aussi que l'Afrique se dote des mécanismes de prévention précoce et de pouvoir identifier les véritables enjeux des tensions qui peuvent demain devenir des conflits installés dans la durée. Et aussi, ça revient sur la question de la nécessité de la démocratie, parce que la démocratie a cette capacité de réguler les tensions, notamment par la justice, notamment par la solidarité, pour rééquilibrer toutes les inégalités qui s'accumulent et qui empêchent les uns les autres de vivre en bonne intelligence et aussi à chacun de pouvoir trouver sa place dans la société. Merci. Et donc, pour revenir, sur la question de est-ce que la République centrafricaine a un mécanisme tel que les Gatcha-Tcha, en Centrafrique, aujourd'hui encore, nous avons des mécanismes de justice traditionnels qui existent et qui sont pratiqués par la majorité de la population qui s'adresse encore très peu aux juridictions étatiques.
Merci docteur. Écoutons à présent une militante des droits des femmes, c'est Gisèle Tshilingi. Elle est en République démocratique du Congo.
Tant que la majorité des victimes sont des femmes et ceux qui seront autour de la table des négociations seront majoritairement des hommes, il sera difficile de comprendre l'esprit victimes et populations. Donc, il faudrait établir des concertations mixtes et multilatérales pour gérer les conflits et préserver la paix, favoriser le dialogue tout en rapprochant les populations et les militaires ou ex-combattants, parce qu'un homme en uniforme ne devrait pas signifier insécurité pour la population, plutôt sécurité comme on le voit en Europe ou en Amérique. En tant que chrétienne, Jésus nous dit dans la Bible, dans Jean 14, 27, « Je leur demanderai alors d'inviter le Saint-Esprit dans leur démarche de processus. Croyez-moi, la paix reviendra. » Alors, comment expliquer les échecs? Comme j'ai dit déjà, ce sont les hommes qui trouvent des solutions, alors que la plupart des victimes, ce sont des femmes. C'est déjà le plus grand problème. Il y a un manque de pardon et de tolérance. Les négociations se font sans demander justement l'avis des populations. Ce sont elles les premières personnes à gérer les conflits. Et il n'y a pas Dieu dans cette recherche. C'est plus intérêt personnel, finance, intérêt politique que l'intérêt pour les populations.
C'était Gisèle Tshilingi, elle est en République démocratique du Congo. Écoutons une autre Congolaise à présent, c'est Nancy Yowa Ngalula, militante des droits humains.
Je pense que le mal est tellement profond en Afrique quand il s'agit de l'identité de l'Africain. Il y a les effets de la colonisation. Alors, il faut d'abord que l'Africain connaisse son identité, retrouve son identité et qu'il sache réellement qui il est. Il y a eu des frontières qui ont été créées pendant la colonisation. Il y a eu des déplacements de peuples qui ont été faits. Il y a eu des mixages des peuples qui ont été faits. Et comme à l'époque, on ne gardait pas des archives, on a perdu l'authenticité ou l'originalité de certains peuples. Donc certains peuples se retrouvent un peu partout. De deux, il y a un problème socio-économique qu'on sait, les ressources naturelles de l'Afrique. Les ficelles sont tirées de quelque part. Il y a un intérêt quelque part à maintenir ce système-là. Ce n'est pas pour rien que on trouve les mêmes conflits. Il y a un problème de ressources naturelles, il y a un problème de frontières. Donc quand vous regardez, que vous suivez, à la base, là où il y a les conflits, c'est un problème de terre et c'est un problème de ressources minières.
Voilà, donc c'était Nancy Yowa Ngalula, elle est donc congolaise. Docteur Antoinette Montaigne, hein, on a bien précisé tout à l'heure que voilà, on a des commissions vérité-réconciliation dans plusieurs pays sur des conflits finalement qui sont encore en cours. C'est le cas notamment dans votre pays. Alors comment vous l'expliquez ça? Est-ce que l'on peut parler d'échec d'une certaine manière, en tout cas de difficulté à accéder vraiment à cette paix dans votre pays?
Alors, tout d'abord, deux choses dans ce qui vient d'être rappelé par nos deux intervenantes. La question des femmes qui ne sont pas toujours dans les tables de discussion pour prendre les décisions, alors qu'elles sont souvent majoritaires à être victimes. Et aussi la question de l'identité des communautés en Afrique par rapport à la question du découpage des territoires, etc. Je pense que ce sont des questions importantes et qui pouvaient être réglées en partie par un système éducatif qui travaille sur l'histoire des pays, l'histoire des sociétés africaines. Et ça, c'est encore très, très, très faible. Et je pense que si l'histoire était expliquée, ça pourrait aider à prévenir les conflits par rapport au système éducatif. Et pour revenir à la question centrafricaine, en 2014, quand la stratégie a été mise en place pour proposer la réconciliation nationale, on pensait que de manière tout à fait possible, il y avait la possibilité de travailler sur la question de la commission vérité 5 ans après. Et c'est venu 5 ans après, le premier mandat du retour à l'ordre constitutionnel était presque achevé lorsque la loi a été votée. Normalement, si on était resté sur les accords qui ont eu lieu en 2015, en marge du Forum national de Bangui, c'est-à-dire l'accord politique pour la paix et la réconciliation, et les recommandations de tous les délégués venus de toutes les régions de Centrafrique, normalement, il n'y avait pas de raison d'avoir encore un conflit qui se poursuit. Ce qui montre aussi que cette commission, elle est nécessaire, parce que le temps du forum de Bangui après les consultations là-bas n'a pas permis d'aller en profondeur. Maintenant, la question, c'est la question du choix politique des uns des autres.
Voilà, mais je suis malheureusement obligée de vous arrêter ici, docteur Antoinette Montaigne. On arrive au terme de l'émission. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre de la Réconciliation de la République centrafricaine. Vous êtes membre de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. C'était Nathalie Barge avec vous à la technique, Georges Léonard Sagnot. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.